Je vais maintenant donc vous présenter notre conférencier de ce soir, Monsieur Geoff Rook. Il est né en 1941 à Londres. Il est directeur technique et cofondateur de Terrell International. En 1982, il arrive en France après 16 ans de carrière en construction et bureau d'études. Il cofonde la société Terrell Rook Associés. Il est associé avec le bureau Sevrud Associates de New York. Il est fellow de l'Institution of the Civil Engineers. Et concernant ses spécialités, ses travaux l'ont conduit à être un des plus grands spécialistes internationaux des buildings et des projets de grande envergure dans des zones de haute sismicité. Avec le bureau Terrell International, il a réalisé des projets prestigieux à Paris, la Défense, dans toute la France métropolitaine, au Mexique, à la Martinique, au Danemark et en Russie. Je vais donc maintenant lui céder la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi on pourra avoir un échange pendant un quart d'heure, 20 minutes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci pour l'intérêt que vous portez à ma petite exposition ce soir. Je voulais d'abord vous dire que si je présente ce sujet, c'est parce que je suis associé avec Sevrud Associates, qui est un bureau d'études consulting engineers comme nous-mêmes, à New York, et à force de collaborer avec eux pendant plusieurs années, j'ai côtoyé M. Ed De Paola, ingénieur de structure que moi-même, qui a participé sur plusieurs comités qui avaient comme tâche d'examiner les événements du 11 septembre en ce qui concerne le comportement des bâtiments et donc a contribué énormément au rapport que je vous présente là, bon, la page de garde, un rapport qui était créé en mai 2002 qui examine toutes les questions concernant le comportement de ces bâtiments. Alors, un petit rappel des événements. C'est toujours un peu dur à voir. Alors, ça serait bien. Pardon. Bon, on va rester là. La première chose à voir, c'est que les bâtiments restent debout après les deux impacts des deux avions. C'est quand même une chose très importante et. Je n'arrive pas à faire dérouler la première séquence une deuxième fois, mais ce qui est important à noter également, c'est énorme boule de feu que l'on voit à l'extérieur du bâtiment. Alors, une première question, comment ça se fait après une telle... Oui, c'est bien. On voit bien la boule de feu sur deux... Avant. La boule de feu présente à l'extérieur du bâtiment. C'est une image très importante pour moi pour le discours de ce soir, parce que, comme nous allons voir tout à l'heure, c'est le feu... qui est l'élément clé à l'effondrement final des deux bâtiments. Comme je vous ai dit quand même, les bâtiments, malgré l'impact, sont restés debout. Dans le cas de la tour 1, qui est la tour nord, 1h54, et dans le cas de la tour sud, 56 minutes avant l'effondrement et malgré l'impact. Alors, ce qui est important de savoir en ce qui concerne ces boules de feu, c'est qu'il ne s'agit pas d'explosion. C'était une du kérosène des avions qui brûlaient à l'extérieur du bâtiment, mais qui, en fin de compte, n'a pas brûlé beaucoup, au moins dans l'immédiate, à l'intérieur du bâtiment. C'est un élément absolument clé dans la compréhension de ce qui s'est passé. Pourquoi pas à l'intérieur du bâtiment? Tout simplement parce que le feu demande de l'oxygène. Et ce feu était privé d'oxygène. Le kérosène n'a pas trouvé à l'intérieur du bâtiment tout ce qu'il lui fallait comme oxygène pour que ça brûle tout de suite. Et en fin de compte, ce qu'on croit s'est produit est le fait que une partie du kérosène présente toujours dans les avions est brûlé avec ces boules de feu à l'extérieur du bâtiment, et le reste aurait dégouliné un peu partout à l'intérieur du bâtiment, y compris descendant par les gaines d'ascenseur, par les trémies d'escalier, et ainsi de suite. Et ce feu a très vite transféré le feu à plusieurs niveaux dans le bâtiment, ce qui veut dire que très rapidement, il y avait un feu tellement conséquent dans les bâtiments que effectivement, les pompiers étaient confrontés avec une situation qui était, de ma manière de voir les choses, immaîtrisable. Alors, quelques chiffres. Avant le décollage, chacun des Boeing 767 aurait porté environ 93 000 litres de kérosène. On estime qu'il restait 38 000 litres dans chaque avion lors de l'impact sur les tours, et que les boules de feu auraient consommé aux alentours de 11 000 litres de kérosène, c'est-à-dire qu'il restait environ 27 000 litres de kérosène qui coulait un peu partout dans chaque bâtiment, qui était là que pour répandre le feu un peu partout. Alors, il est intéressant de regarder quelques éléments concernant les avions, parce que bien sûr, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre un tel attentat? Là, vous avez quelques chiffres, je suis désolé, sont en unité anglaise. Vous avez le poids de différents avions, vous avez la capacité en kérosène, et vous avez la vitesse de croisière. Alors, le premier avion, c'est le B-25 qui s'est écrasé contre, excusez-moi, quel bâtiment, plusieurs années avant. Le B-707 qui était pris en compte dans la conception des deux tours du World Trade Center, pris en compte dans le sens que l'architecte et l'ingénieur de ces bâtiments envisageaient la possibilité qu'un avion arrivant à New York, perdu dans le brouillard, puisse s'écraser contre un de ces bâtiments. Et il va de soi que l'avion arrivant à la fin de son voyage ne portait presque plus rien comme fuel dans ses citernes, pesait moins lourde et n'avait pas cette quantité de matière flammable à bord. En réalité, c'est le B-766 qui a été utilisé par les terroristes. Et pour la comparaison, sur cette image, vous voyez le B-747 encore plus grande et qui porte d'ailleurs plus que deux fois plus de kérosène que le 767 déjà, et vous avez la 380 que vous voyez encore plus grande. Et donc, bien sûr, quand les ingénieurs commencent à se poser des questions, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre un événement pareil dans le futur, tout de suite, on est obligé de se poser des questions, mais il a quelle taille, un avion ? Là, vous voyez un peu la construction du bâtiment et on va parler un petit peu parce que c'est très particulier. Le bâtiment est comme ce qu'on appelle un tube, nous, dans le métier, dans le sens que c'est toute la façade qui était porteuse. C'est toute la façade qui résiste aux sollicitations du vent. C'est une façade qui est extrêmement résistante. C'est une façade qui comporte beaucoup de redondance, terme technique, je m'en excuse, mais difficile d'éviter. L'idée de redondance est de dire... Pardon, en passant cette image-là qui est terrible, les gens juste au-dessus du niveau de l'impact qui viennent aux fenêtres et qui se demandent qu'est-ce qui leur attend. L'idée de redondance est que la descente de charge d'un bâtiment, le poids d'un bâtiment et tout ce qui est dedans peut trouver un chemin vers les fondations, vers les supports, on peut trouver plusieurs chemins. Et donc, si jamais il y en a qui est coupé pour une raison quelconque, tel était le cas sur cet événement, grand trou dans les façades, le poids du bâtiment était résisté par cette façade grâce à sa solidité et sa redondance, et les ingénieurs de structure se félicitent de la performance de ces bâtiments. Alors, juste avant de commenter cette image-là, quelques chiffres, le bilan. Si vous n'êtes pas au courant, on pense qu'il y avait environ 58 000 personnes présentes dans le World Trade Center ce matin-là. On sait que 99% des personnes présentes aux étages en dessous des niveaux atteints par les deux avions, 99% de ces personnes sont... échapper, sauf et sans, sans problème. La population au-dessus des niveaux d'impact serait environ 2400 personnes qui correspondent avec les 403 pompiers et secouristes qui ont perdu leur vie dans cet événement, correspondent au nombre de vies perdues ce jour-là. Bon, alors, les questions de sécurité. J'ai choisi de vous montrer une vue en plan très simplifiée du bâtiment sur lequel vous pouvez identifier trois escaliers de secours. Bien sûr, le problème ce jour-là était les dommages matériels faits par les avions qui ont fait en sorte que ces escaliers n'étaient pas accessibles aux personnes ou n'étaient pas passables. Non. Qu'est-ce que merci. Pour des personnes au-dessus, au niveau au-dessus, il y avait 99 ascenseurs dans le bâtiment, dont 23 rapides. Les ascenseurs avaient des niveaux d'échange à différentes étapes dans le bâtiment et les escaliers de secours également. Le bâtiment ou la tour nord avait été victime d'un attentat à la bombe quelques années auparavant. Les mesures de sécurité avaient été renforcées. Il y avait un système d'éclairage au sol pour guider le monde vers les sorties de secours. Il y avait un système d'adresse publique. Il y avait des répétitions tous les 6 mois des procédures d'évacuation des bâtiments. Et malheureusement, il y avait également des consignes de rester à votre poste de travail jusqu'à ce que le centre de sécurité vous demande de sortir. Et nous savons, par exemple, que des personnes présentes dans le WTC2, la tour sud, avaient parfaite connaissance de ce qui se passait juste à côté, et pourtant, ils avaient le système d'adresse interne du centre qui leur demandait de rester à leur poste en leur disant qu'il n'y avait pas à craindre. Heureusement, beaucoup de personnes ont choisi d'ignorer ces conseils, ont pris leurs pieds tout de suite, ont pris les ascenseurs également, et on peut dire que beaucoup de monde a réussi à échapper à la tour sud malgré les conseils de rester sur place. Encore une petite remarque concernant les ascenseurs. En Europe, les ascenseurs, normalement, il y a certains ascenseurs qui sont dédiés aux pompiers. Lors de l'alarme déclenchée dans un bâtiment, l'ascenseur redescend automatiquement au niveau du sol et peuvent être opérés manuellement par les pompiers. C'est une disposition terriblement importante. Malheureusement, à New York, il y a eu une histoire, une certaine période où il y a eu des accidents, des pertes de vie, disons, de pompiers en utilisant des ascenseurs. Et en 2001, l'utilisation de l'ascenseur était interdite aux pompiers new-yorkais qui étaient confrontés par le problème d'aller se battre contre un feu au 98e étage en prenant l'escalier. Vous imaginez la scène sur un escalier. Cette image n'est pas très claire, mais vous comprendrez bien que les photographes n'ont pas eu toutes les conditions qu'ils auraient souhaitées pour prendre des photos. Et là, vous voyez une situation tout à fait classique. Il y a un pompier chargé avec son matériel qui essaie de monter l'escalier pendant que les personnes descendent. Je reviens sur la construction parce que c'était quand même très résistant en général, c'était excellent, mais on va trouver qu'il y a certains points de faiblesse qui ont malheureusement contribué rapidement à l'effondrement des bâtiments. Les façades que vous voyez sur la droite de cette image représente les poteaux et poutres en charpente métallique qui constituent toute la façade. Elles sont assemblées en quinconce pour qu'il n'y ait pas de joints tout au même niveau. C'est une disposition qui n'était pas forcément nécessaire, mais encore une fois, ça a contribué à cette robustesse, cette redondance de la façade et à son bon comportement pendant que le bâtiment est resté debout malgré l'énorme trou créé par l'avion. Et pendant que les 99% de personnes au niveau inférieur ont pu s'échapper. Alors, je voulais vous montrer cette image parce que il y a quand même quelque chose de très important de comprendre dans cette histoire. Si vous ne le savez pas, en Europe en général et certainement en France, quand on construit un bâtiment de grande hauteur, c'est presque sûr et certain que le noyau central qui comporte les gaines d'ascenseur, les trémies d'escalier, toutes les gaines de ventilation technique et ainsi de suite qui passent tout autour dans le bâtiment, nous les construisons normalement en béton armé. Alors, il faut savoir que, au moins dans l'État de New York, le charpentier est roi sur un chantier de construction. Il n'accepte pas du tout. Je devrais conditionner cette remarque en disant avant le 11 septembre 2001. Il n'acceptait pas du tout que quelqu'un d'un autre métier travaille au-dessus de sa tête. Et donc, la construction d'un bâtiment allait toujours métal d'abord, charpente métallique d'abord. Il est très difficile de créer une gaine d'ascenseur, par exemple, ou un escalier de secours, en béton armé à l'intérieur d'un bâtiment qui est déjà construit en charpente métallique. La logique de construction demande que la béton armé aille un petit peu en amont de la charpente métallique, exactement comme on fait ici à Paris, dans les bâtiments de construction mixte, il y en a beaucoup, et c'est une séquence de construction qui est tout à fait logique. Alors que c'est une histoire de syndicalisme. À New York, c'était pas possible. Le charpentier ne l'acceptait pas, et donc la charpente allait d'abord. est-ce qu'il y a effectivement, pour des raisons de cadence de construction et pour des raisons d'économie, interdisez, si vous voulez, l'utilisation du béton armé. Donc, le World Trade Center avait une ossature entièrement en charpente métallique et les escaliers de secours étaient habillés en placoplâtre, en matière très peu résistant, et on n'a pas de difficulté du tout à comprendre comment ça se fait que l'impact des avions aurait rendu les escaliers de secours inutilisables aux personnes au niveau supérieur, parce que la fermeture de ces gaines, ces trémies étaient trop fragiles. Et en passant, si vous voulez, je pense qu'on a largement couvert ça. C'est encore une vue de pendant la période de construction qui présente un peu la même chose. Il y a des histoires de personnes qui descendent l'escalier, se trouvant bloquées par des débris, ont eu le bon sens ou connaissance de la construction, ont cassé les murs de l'escalier pour sortir et traverser le plateau et aller chercher un autre escalier. Et là, si vous avez besoin de l'explication, je dois vous dire que, bien sûr, pour des raisons de sécurité dans le fonctionnement normal d'un bâtiment, on ne voudrait pas que n'importe qui, quel petit voyou, puisse accéder n'importe où par un escalier de secours. Le principe, normalement, c'est qu'une fois que vous êtes rentré dans un escalier de secours, vous n'avez plus la possibilité de vous en sortir, sauf au niveau du rez-de-chaussée et à l'air libre. Et si vous vous trouvez bloqué par un tas de débris, normalement, vous êtes fermé là, vous ne pouvez plus rien faire. Alors que certaines personnes, selon des anecdotes, on ne sait pas ce que ça vaut, selon des anecdotes, certaines personnes, sachant que les murs ne résistaient pas de coups de pied, se sont sortis sur les plateaux pour redescendre par d'autres escaliers. C'est pas une bonne solution. La bonne solution, c'est la solution française. L'escalier, il doit être bien entouré de béton armé. La construction des planchers. Les planchers portaient sur 18 mètres, qui est assez loin. La construction des planchers était extrêmement légère par des poutrelles métalliques très fines, telles que vous voyez représentées ici sur ces dessins d'ingénieurs. Et il y a deux choses importantes. Vous voyez, si vous regardez tout en haut à droite, vous voyez que la poutrelle s'accroche par le bout de ses ongles sur le bâtiment. Bien que l'image ne le dit pas, en réalité, c'est à peu près la même chose à gauche aussi. Sauf qu'en bas, vous avez une espèce d'amortisseur. C'est intéressant en passant parce que le bâtiment, il était, en fin de compte, quand il était construit, il était extrêmement sophistiqué. Ces amortisseurs existaient pour amortir les déplacements et les vibrations du bâtiment dues au vent qui pouvaient déranger un petit peu les personnes à l'extérieur. Il y a 10 000 de ces amortisseurs intégrés dans le bâtiment, mais l'importance par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, c'est que bien que vous pensez voir une liaison assez solide entre cette poutre métallique et la structure verticale sur la gauche de l'image, en fin de compte, c'est pas du tout solide, c'est un amortisseur. Alors, ces images-là ne viennent pas du World Trade Center du tout, mais la question se pose, comment protéger l'acier contre le feu? Et j'ai mis ces diapos-là juste pour vous montrer l'image à gauche. C'est un produit qui est appliqué à du métal pour donner une protection contre le feu. C'est un isolant thermique qui retarde l'échauffement du métal. Voilà, ça c'est une image dans le bâtiment. Vous voyez des poutres et poutrelles métalliques protégées par ce produit. Là encore, il y a une chose importante à dire. Personne ne se pose la question que devient une telle protection dans le cas d'une attaque par un avion ou quelque chose de beaucoup moins important, mais ce genre de protection reste valable tant qu'il n'y a rien qui bouge et tant qu'il n'y a rien qui tape dessus. Alors que il est clair que sur les trois niveaux percutés par les avions dans chaque bâtiment, cette protection contre le feu aurait été sévèrement abîmée et l'acier encore plus susceptible à l'échauffement et finalement une perte de sa résistance. Alors, j'ai peut-être les choses un petit peu dans un ordre inverse. J'aurais peut-être dû vous montrer cette image d'abord et commenter. C'est un sprinkler. C'est une tête de sprinkler vue de très près. C'est un objet qui a même pas la taille de ce verre. Alors, si vous nous connaissez pas. Le sprinkler, c'est un truc génial. Tout le bâtiment, les bâtiments étaient équipés de sprinklers. Ils se cachent derrière les faux plafonds. Ils sont reliés à tout un système de tuyauterie. Ils sont en permanence sous pression. Et le principe est que une petite élément de ce tête est fait d'un plastique qui se fonde à assez basse température. Et dès que ça fonde, il y a une chute de pression dans le système de tuyauterie qui est détectée quelque part dans le bâtiment. Les pompes se déclenche, de l'eau est envoyée partout dans le système et la petite tête qui est fendue, qui n'est plus en place, peut pas, laisse passer l'eau qui coule tout de suite. Et le principe qui est excellent, ça coûte cher, c'est rarement installé, les Américains l'utilisent beaucoup plus que nous. Mais le principe est très simple, c'est presque immédiat. Vous quittez votre bureau, vous jetez votre mégot dans le corbeil et vous allez à la machine à café sur le couloir pour vous faire un café, le corbeil part en flamme, c'est vite détecté par ce système et le temps que vous avez mis à faire votre café et rentrer à votre bureau, le feu s'éteint grâce à l'eau qui a été dispersée par le système de sprinkler. C'était la première ligne de défense contre le feu dans les bâtiments du World Trade Center. Le problème étant assez simple, ce système était certainement abîmé par l'impact des avions, les dégâts, et de toute façon, c'est un système qui réagit extrêmement vite, qui traite un feu de taille très limitée, mais c'est un système qui aurait été totalement dépassé par le feu généré par des vingtaines de mille litres de kérosène qui coulait dans le bâtiment, qui portait le feu partout et qui mettait en feu tout ce qui était flammable du bâtiment même. Un ouvrier en train d'installer le système, je ne sais pas pourquoi ça revient à nouveau. Donc ça c'est la première ligne de défense contre le feu. La deuxième ligne de défense contre le feu dans un tel bâtiment, c'est les pompiers bien sûr, ils arrivent. Ils utilisent les colons sèches. Alors là encore, je m'excuse si vous connaissez bien le système, mais je vais l'expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Vous allez le trouver le long de la rue, la rue des Saint-Pères, et presque toutes les portes, c'est marqué colons sèches à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est le colons sèches? C'est un système de tuyauterie installé qui est en attente pour l'arrivée des pompiers. Le pompier, il arrive, il connecte le système à son camion, qui est une énorme pompe roulante, qu'il branche également sur l'eau de ville, et il met de l'eau sous pression dans cette colonne qui monte toute hauteur dans le bâtiment, ce qui veut dire que le pompier, quand il arrive au niveau du feu, dans l'escalier, il peut brancher son petit bout de tuyau sur la colonne sèche. Il a à sa disposition immédiatement de l'eau sous pression. Encore une fois, le système détruit par l'impact des avions. Et encore une fois, c'est un système qui a fait ses preuves, qui marche merveilleusement bien, mais était complètement dépassé par l'amplitude de cette conflagration. Donc, le feu est là. On pense que le feu dans chacun de ces bâtiments s'est étendu sur peut-être une vingtaine d'étages. Il est là. Il est en train de chauffer le plancher qui, je vous rappelle, est sur la base de poutres métalliques. Et là, vous voyez un dessin, c'est un peu symbolique, un peu théorique, mais vous avez l'effet de poutres chauffées par le feu que par la dilatation thermique commence à pousser contre leur support et déforme les poteaux qui les portent. Ce qui nous induit un phénomène très cher aux ingénieurs qu'on appelle l'effet P delta. Maintenant, le poteau est déformé. Il subit une sollicitation supplémentaire pour laquelle il n'a jamais été conçu. Et le malheur de cette situation, c'est que cette sollicitation est tel qu'il se déforme encore plus, et encore plus dans le mauvais sens. Ce qui veut dire que le problème ne cesse pas de s'aggraver. Vous aviez également le phénomène d'un affaiblissement de la charpente métallique des planchers qui fait en sorte que ils perdent, ou les poutres, elles perdent leur rigidité, n'ont qu'une seule possibilité de tenir, c'est-à-dire un peu comme des chaînettes, des caténaires, qui tirent également sur les colonnes qui les portent, les poteaux qui les portent, qui nous ramènent à, encore une fois à notre histoire de l'effet P delta. Finalement, pour une de ces raisons ou l'autre, nous allons trouver une situation par laquelle un plancher tombe. Je vous ai déjà montré que les attaches des planchers sur les poteaux étaient un point assez délicat, parfaitement suffisante pour tout ce qui était envisageable dans ces bâtiments lors de sa conception, mais insuffisante en face de l'événement du 11 septembre et le feu qui était généré. Donc, vous avez maintenant un plancher qui n'a plus de support, qui tombe. Vous avez alors le début de ce que nous appelons l'effondrement progressif. Ce n'est pas le poids du plancher qui tombe, qui fait mal. Il pèse assez lourd, mais ce n'est pas son poids qui fait mal. C'est le fait qu'il tombe, c'est l'effet de l'impact. Je ne suis pas sûr que la métaphore est très précise et très bien, mais vous imaginez, vous essayez d'enfoncer un clou dans le mur de votre appartement pour mettre un tableau. Ça va beaucoup mieux si vous le tapez avec un marteau que si vous essayez de pousser avec votre pouce. L'effet de l'impact. Et c'est un grand multiplicateur, si vous voulez. Et donc, un plancher tombe, l'impact sur le deuxième va dégager le deuxième, et très rapidement, vous allez avoir un effondrement progressif. Avec les planchers qui tapent l'un sur l'autre jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. C'est un peu déplacé, c'est un petit rappel de l'ouverture créée par l'avion dans la façade. C'est quand même assez extraordinaire. Tous les éléments là verticaux que vous voyez sont des poteaux qui portent le bâtiment, et malgré le fait qu'autant de poteaux sont coupés, le bâtiment, à ce stade-là, il restait toujours debout. Ça, c'est l'image, le dessin relevé d'après des pièces qui montrent exactement comment ça s'est produit. Alors, pour que les poutres métalliques tombent, il fallait que les assemblages aux extrémités, là où les poutres sont boulonnées sur les poteaux, que ça cède. On voit en bas à gauche la manière que les boulons étaient tout simplement arrachés du métal. Ça nous j'apporte des réflexions sur ce qu'on a tendance à appeler aujourd'hui la robustesse. C'est un petit détail, ça n'aurait pas coûté très cher de faire beaucoup plus solide. Les calculs pour le fonctionnement normal du bâtiment ne demandaient pas que ça soit plus solide, mais dans l'occurrence, c'était un petit moyen faible dans la chaîne et ça a contribué énormément à l'effondrement qui, je vous rappelle, est progressif, commencé avec un plancher et jusqu'à ce que tout tombe. Alors, on va arriver maintenant un petit peu vers les dégâts collatéraux, parce que si je trouve la liste, les deux tours qui tombent vont tomber. Ça, c'est le site plutôt à la fin. Vous voyez là un plan du World Trade Center avec tous les bâtiments et tout ce que vous voyez est identifié là a été effectivement détruit par l'effondrement. Le Marriott Hotel, World Trade Center numéro 3, South Plaza, numéro 4, les douanes des États-Unis, bâtiment numéro 6, le Winter Garden, l'église de Saint-Nicolas, l'église grecque de Saint-Nicolas, les bâtiments 5 et 7, 90 West Street, le Bankers Trust bâtiment, le bâtiment Verzin, et le World Financial Center, qui portait le numéro 3 dans le World Trade Center. Tous ces bâtiments détruits par l'effondrement des deux tours. No comment. Voilà, un rappel du site et des différents bâtiments. Voilà encore la liste des bâtiments que je viens de vous lire, de tout ce qui a été détruit par... Et là, il y a une image en trois dimensions. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? Quelles sont les réflexions de l'ingénieur de structure après un tel événement? Je vais peut-être juste faire un tour en arrière un instant avant de venir. L'imprévu, l'inattendu, le catastrophique, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre quelques exemples. Je dirais que parmi les choses qui nous inquiètent beaucoup en termes de catastrophes, c'est les catastrophes naturelles, c'est les séismes. Alors, l'ingénieur, il essaie de mieux comprendre, il essaie d'analyser, il essaie d'arriver au point que il peut appliquer la mathématique pour définir l'amplitude d'une catastrophe éventuelle. Et notre monde a fait énormément de progrès dans cette matière depuis 40 ans, je dirais. N'empêche que, on n'est pas très doué quand il s'agit d'appliquer ces connaissances Ça, c'est des images, en effet, en Turquie, de bâtiments qui, normalement, étaient conçus, calculés et armés pour résister au séisme. Aujourd'hui, on considère que c'est un risque que l'on connaît et que l'on maîtrise, mais on constate dans le monde, et j'aurais pu vous chercher beaucoup d'images prises un peu partout dans le monde, on se rend compte que on n'est pas toujours aussi performante à ce qu'on voudrait bien imaginer. Il y a des accidents. On ne va pas rester là-dessus, mais vous vous rappelez du problème du tunnel de Mont-Blanc. Il y a quand même toujours des accidents très graves. Et en passant, je voulais commenter en ce qui concerne le tunnel de Mont-Blanc que le feu a quand même dégradé le béton et il y a eu besoin de beaucoup de travaux de remise en état après ce feu. Il ne faut pas imaginer que le feu ne concerne que la charpente métallique. C'est loin d'être le cas. En passant, je n'ai pas d'image, mais le siège de... Le siège de Crédit Lyonnais au cœur de Paris. Les façades en pierre massive. Côté, je suis incapable de nommer les rues, mais côté est, ont dû être entièrement remplacés dans la rénovation du bâtiment parce que la pierre était totalement dénaturisée par le feu. Le feu, malheureusement, affecte tous les matériaux d'une manière ou d'une autre. Alors, je passe à un autre sinistre qui nous apprend des choses. Le bâtiment Ronan Point, dans un banlieue de Londres, pendant la nuit, vers 5 heures du matin, je pense, un jour en 1968, il y a eu une explosion de gaz dans la cuisine de quelqu'un qui a provoqué l'effondrement progressif totalement classique. Il a suffi qu'un panneau de mur soit viré. Excusez-moi, je ne trouve pas la meilleure façon de m'exprimer par cette explosion pour que tous les étages du bâtiment tombent. C'est l'exemple classique de l'effondrement progressif et pour moi, c'est l'incident qui a donné naissance à ce terme. Heureusement, dans cet incident, c'est toutes les cuisines qui sont tombées, alors que tout le monde était dans son lit à l'autre côté du bâtiment. Il n'y a eu que 4 morts dans cet accident. À la suite de cet événement, les autorités britanniques ont réfléchi un peu au problème de l'imprévu, du catastrophique, de l'accidentel, et ils ont retenu comme principe, et c'est pour ça que je voulais vous parler de ce bâtiment-là ce soir, parce que ça nous a appris quelque chose. Ils ont retenu comme principe l'idée que n'importe quel élément d'un bâtiment, si c'est un élément primaire, cet élément peut disparaître comme si par touche d'une baguette magique, par un petit malin, pas la peine de chercher l'explication, pas la peine d'imaginer le camion des éboueurs, est-ce qu'il serait capable de casser un poteau au rez-de-chaussée, est-ce que le camion il peut rouler suffisamment vite, est-ce qu'il pèse suffisamment lourd. Le principe, c'est de dire que un élément primordial de la structure peut disparaître pour une raison qu'on ignore, qu'on est incapable même d'imaginer, et il ne faut pas que le bâtiment s'effondre d'une manière progressive. Alors, nous aujourd'hui, quand on fait la comparaison entre nos projets ici à Paris et le projet de nos collègues à Londres, on trouve qu'ils sont environ 5% plus chers que nous. Et c'est précisément dans les armatures qu'ils mettent dans le béton armé, plus que l'on met nous, pour apporter cette caractéristique de robustesse, cette capacité de répondre sans effondrement total à un accident, un incident que l'on n'arrive même pas à imaginer. Peut-être après l'an septembre, on voudrait renforcer une telle chose. Là également, comment dire, bon, on ne va pas rester là-dessus très longtemps, c'est le subway, subway c'est américain, métro c'est français, je vais y arriver, c'est la underground, voilà, c'est le système de métro londonien à King's Cross où le feu a tué 39 personnes, un accident totalement inattendu. Je passe, je reste là, et ça ne devrait pas... Bon, c'est là. Je pensais que j'avais éliminé ça. Vous savez, à deux matchs de foot, à Heysel Stadium et à Bradford, on a eu des terribles accidents de très nombreux supporters tués juste par la panique de la foule. Et bien sûr, les Américains qui examinent les conséquences du 11 septembre s'interrogent sur tout ce qui est escalier de secours, y compris la largeur, le nombre, parce que ça serait quand même tragique de prendre toutes les mesures imaginables, mettre des escaliers secours bien enfermés en cage de béton armé, de les écarter l'un de l'autre pour qu'un accident quelconque qui produit des dégâts matériels importants ne laisse quand même un escalier qui fonctionne, si à la fin de tout ça, la foule panique et ils finissent par se marcher. Et ça s'est produit deux fois à deux matchs de foot. Vous allez me dire que les supporters de foot boivent plus d'alcool, mais le problème est réel quand même. Ça fait partie des réflexions des différents comités aujourd'hui qui fonctionnent et qui s'intéressent à toutes les conséquences du 11 septembre. Alors, ça c'est l'École nationale des ponts et chaussées à Marne-la-Vallée. Pardon. correction. L'élévation de ce très beau bâtiment que vous voyez là, c'est l'École nationale des ponts et chaussées à Mans-la-Vallée. C'est le seul bâtiment que je connais aujourd'hui qui a été calculé pour une résistance au feu selon l'Eurocode qui est en vigueur maintenant, qui est un tout petit, pour moi personnellement, un premier pas vers une véritable étude de comportement de structure pour résistance au feu et pour stabilité au feu. Parce que la réalité est que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est médiéval. Par rapport à ce qu'on fait pour la résistance des bâtiments contre le séisme, contre le vent, pour les charges d'exploitation. Et quand on a fait des études qui deviennent de plus en plus sophistiquées avec nos ordinateurs de plus en plus performantes, on a tendance à tartiner la structure avec un peu de plâtre et dire voilà, ça résiste au feu. Le principe ici employé à l'EMPC et que vous voyez dans les deux images en fond de plan, c'est de rajouter du béton à l'intérieur du profil métallique parce que en fin de compte le problème de l'acier, c'est que ça perd sa résistance avec l'échauffement. Et si on peut fournir ce que nous appelons massivité, si on peut mettre en place une masse de matériaux qui est capable d'absorber la chaleur, le métal va mettre beaucoup plus de temps à se chauffer au point où ça perd sa résistance. Et là, vous voyez des bâtiments construits de cette manière-là. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est un premier pas. Moi, personnellement, je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire dans la matière de résistance des structures au feu. Et je pense que ça fait partie des conséquences du 11 septembre 2001 que nous allons avoir beaucoup de réflexions sur le calcul des structures pour résistance au feu. Et justement, bien sûr, ça fait partie des recommandations du rapport sur lequel je me suis basé ce soir. Alors, je ne sais pas comment on résume tout ça. Donc, nous avons du travail à faire pour améliorer la robustesse de nos bâtiments. Ça coûte pas forcément très cher et je dirais presque que ça peut être sans incidence sur l'architecture. Nous réfléchissons sur la disposition des escaliers de secours. Le débat sur le positionnement des escaliers de secours sur un plateau parce que manifestement un événement, un accident très sérieux pouvait empêcher le monde d'arriver à toutes les escaliers d'un plateau. Et donc, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'il ne faut pas les écarter l'un de l'autre autant que possible, justement pour améliorer les chances que les gens arrivent? Certainement, il faut les protéger avec du béton armé, qui deviennent beaucoup plus solides. Et bien sûr, il y a tout un tas de réflexions subsidiaires sur ce qu'on peut faire pour un événement de ce type, probablement pas de cette ampleur. Alors, j'allais terminer avec ce petit mot que j'ai trouvé dans le New York Times. C'est en anglais, là, l'original, et vous avez une traduction un peu de mon style au-dessus. Monsieur Won Young Kim a vu en temps réel les événements. Il a vu sur ses instruments l'équivalent d'une secousse de 2,5 sur l'échelle de Richter, et il semble avoir compris que notre monde changeait, que ça ne pouvait pas être pareil à nouveau. Et c'est résumé dans cette petite phrase-là que je trouve, bon, pour moi, ça dit tout sur le 11 septembre. Ben voilà. Je serai... Je ne sais pas ce qu'on va mettre comme image.
On va passer aux questions, peut-être. Oui, monsieur sur la droite.
Je voulais vous demander. Allô ?
Oui, allez-y, c'est bon. Juste sur la droite.
Je voulais vous demander si la hauteur de l'impact, on revient, la hauteur de l'impact avait de l'influence. Autrement dit, d'après ce que vous avez expliqué, quelle que soit la hauteur de l'impact, les tours seraient tombées.
Oui, bien sûr, les techniciens qui examinent la question se posent la question, comment ça se fait que la tour 1 est restée debout 1h54 minutes, alors que l'autre que 56 minutes. Il y a une question de l'angle d'attaque de l'avion. Mais en effet, on pense que l'auteur y est pour beaucoup de choses. Si je trouve... Le bâtiment nord était atteint entre les étages 94 et 98 et le bâtiment sud entre les étages 78 et 84. Et on pense que c'est très significatif que le bâtiment 2 s'est effondré beaucoup plus vite, précisément parce que attaqué plus bas. Et c'est logique. Parce que, en fin de compte, avec un énorme trou dans la façade porteuse et des poteaux juste à côté, en train de faire le travail de 4, 5 ou 10 poteaux qui devraient remplacer, plus on est bas, plus les charges sont importantes. Et oui, on pense que ça a bien contribué.
Une autre question ? Milieu.
Merci. Bonsoir. Vous avez résumé, monsieur, le problème de l'effondrement des deux tours au feu. Autrement dit, les deux immeubles qui ont été construits en construction métallique résistaient moins bien au feu par rapport à une construction en béton armé. Mais comme vous avez un peu expliqué, en fait, on a perdu la liaison entre les éléments porteurs, c'est-à-dire les poteaux, et comme vous avez expliqué aussi que c'est la façade qui porte tous les efforts, donc on a perdu la liaison entre les poteaux et les planchers. Donc, le plancher de l'étage N plus 1, il est tombé sur le plancher de l'étage N, et le plancher de l'étage N n'est pas calculé pour prendre la charge du plancher de l'étage N plus 1. Donc, ce qui a, à mon avis, engendré l'effondrement total du bâtiment. Et ma question, ça va être donc la suivante. Si on avait construit les deux tours en construction en béton armé au lieu de construction métallique, est-ce que ça ne va pas être les mêmes résultats et les mêmes effondrements? Merci.
Oui, c'est très difficile. Dans le sens que ces bâtiments construits en 1971, 110 étages, des planchers qui portent 18 mètres, on a énormément de mal à imaginer quand quelqu'un aurait pu essayer de construire en béton armé. Et donc, il devient extrêmement difficile de faire la comparaison. C'est sûr que le béton armé répond beaucoup mieux, au moins initialement, contre le feu. Ceci dit, quand même, et c'était un peu ça l'objet de vous montrer Ronan Point et les bâtiments effondrés par séisme, le béton armé doit avoir quand même une certaine ductilité et robustesse. Et bon, c'est tout un autre discours, mais si vous voulez, pendant des décennies, les ingénieurs ont affiné leurs calculs, leurs dessins de béton armé, au point aujourd'hui qu'il y a guère un kilo de renforcement dans le béton armé, plus que nécessaire, pour les cas de figure, cas de charge qui ont bien pris en compte. Et c'est là, le problème. Vous exposez un bâtiment à un cas de charge qui n'était pas imaginé, et il y a forte chance que vous trouvez que votre bâtiment manque quelques armatures à un endroit où ces armatures sont nécessaires. Et c'est à la suite de ça, il se peut que cette sollicitation ne dure que très brièvement, mais ça peut initier un effondrement progressif. En effet, c'est l'explication de la plupart des effondrements en zone sismique de bâtiments en béton armé, parce qu'on sait que les séismes ne génèrent que des accélérations horizontales, mais également quelques accélérations verticales. Et si vous avez... Je suis désolé, je deviens de plus en plus technique, je vais vous ennuyer, mais si vous avez le malheur de trouver une combinaison d'accélération verticale que je vais caractériser comme gravité à l'envers, gravité négative, combinée avec une sollicitation horizontale, vous pouvez très vite... casser un élément de béton armé, le cas de figure ne doit pas continuer longtemps, mais il se peut que c'est suffisant juste pour initier un effondrement progressif. Mais pour revenir à votre question, difficile de comparer ce bâtiment en charpente métallique avec l'équivalent en béton armé, parce que je ne pense pas que c'était possible. Ça serait terriblement difficile aujourd'hui, même avec les qualités de béton qu'on sait faire. Mais en 71, ce n'était pas possible.
Une question sur la droite, madame.
Actuellement, sur le site, on voit deux immeubles de chaque côté, dont la charpente métallique a été endommagée par le feu, qui sont quand même très proches du centre. Comment se fait-il que ces immeubles sont restés debout? C'est ma première question, et je voudrais savoir, les deux tours de verre au fond que l'on voit en arrivant, est-ce qu'elles sont récentes ou est-ce qu'elles étaient déjà là avant la catastrophe?
Ah non, je pense que les tours au fond étaient là avant. En ce qui concerne les bâtiments tout autour, il y a eu, on a fait un petit peu le tour là tout à l'heure, beaucoup de bâtiments détruits ou effectivement détruits, suffisamment endommagés pour ne pas être récupérables économiquement. Et en grande partie, la différence serait entre un bâtiment qui a pris feu et un bâtiment qui a tout simplement reçu des tonnes et des tonnes de débris qui ont créé des dégâts. Je ne sais pas si vraiment j'ai répondu à la question.
On va passer à deux autres questions. Les deux dernières, monsieur, oui.
À votre avis, est-ce que les terroristes avaient pu imaginer que les deux tours s'effondreraient complètement?
Vous savez, bien sûr, ça c'est une question qu'on se pose assez souvent, et je trouve que chaque fois que je me pose la question, j'arrive à une autre conclusion. J'imagine que les terroristes considéraient les deux avions comme des bombes, attendaient une véritable explosion qui n'a pas eu lieu et donc qui aurait certainement provoqué l'effondrement progressif des bâtiments et tout de suite. Et donc, j'imagine qu'ils avaient bien, comment exprimer, espéré que ça se passe comme ça. Et c'est quand même remarquable que les bâtiments ont tenu aussi longtemps qu'ils l'ont, avant que le feu les affaiblisse, et que... sur une population, je vous ai dit 58 000 personnes dans le World Trade Center ensemble ce jour-là, je pense que c'était aux alentours de 25 000 personnes dans les deux tours. Et c'est quand même remarquable qu'il n'y a eu que 2 800 vies perdues. Oui, je pense qu'ils espéraient, ils imaginaient une véritable explosion qui faisait effondrer les bâtiments immédiatement. Mais comment dire, si vous poursuivez ce genre de raisonnement, après vous vous demandez comment ça se fait qu'ils n'ont pas synchronisé les deux impacts. Parce que si c'était vraiment l'objet de tuer un maximum de personnes, il était terriblement important de ne pas laisser le temps au monde de sortir du bâtiment 2 après l'impact sur le bâtiment 1. Qu'est-ce qu'ils avaient en tête? Je suis désolé, je ne suis pas un terroriste. J'ai du mal, mais je suis quand même persuadé qu'ils auraient imaginé une explosion qui n'a pas eu lieu et qui, à mon sens, aurait certainement provoqué un effondrement beaucoup plus rapide.
On va prendre une dernière question. Oui, allez-y.
Bon. Je voulais savoir, entre la conception des tours du World Trade Center et la conception qui ont été utilisées, par exemple, pour l'Empire State Building ou le Chrysler Building, est-ce que, grosso modo, c'était la même chose et le World Trade Center était évolué, ou bien c'est deux conceptions complètement différentes? Et par exemple, si ça avait été l'Empire State Building, est-ce qu'il se serait écroulé pareil? Est-ce qu'il aurait mieux résisté? Merci.
Excusez-moi, j'ai pas attrapé le nom de...
L'Empire State Building était construit vraiment différemment que les tours du World Trade Center, avec des conceptions différentes, bien qu'il y ait aussi des charpentes métalliques, ou bien je sais pas, est-ce que par exemple l'Empire State Building, un tel impact, il aurait mieux résisté? Quelle est la différence en fait entre le type de construction du World Trade Center et de l'Empire State Building?
Oh là là. Ah non, 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 mais... à ma connaissance, l'Empire State Building est plus classique dans le sens que le système de contreventement serait dans le noyau central. Si je peux généraliser un petit peu la question, si vous prenez le cas de figure d'un bâtiment avec relativement peu de poteaux dans les façades, vous avez une chance quand même très importante que la perte d'un seul poteau, surtout un bâtiment de très grande hauteur comme ça, la perte d'un seul poteau provoque l'effondrement. Alors que le World Trade Center avait une véritable forêt de poteaux dans les façades, ça fait partie de la conception architecturale, et avait cette caractéristique de redondance, cette capacité de faire passer les charges par d'autres chemins que le chemin prévu dans le calcul et dans la construction, et donc résister remarquablement à l'impact des avions. Ça m'étonnerait qu'un système de construction plus classique où le contreventement est fourni par le noyau central et le nombre de poteaux en façade est limité, ça m'étonnerait qu'un tel bâtiment puisse résister aussi bien à ce qu'a fait les deux tours du World Trade Center.
Geoff Rook, merci beaucoup.